Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique? Quelles sont les sources de la croissance économique? L'accumulation des facteurs travail et capital est source de croissance économique. La croissance économique se mesure par la variation du PIB, c'est-à-dire la quantité de richesses matérielles créées. La production de biens et de services est permise par l'accumulation des facteurs de production, à savoir le travail et le capital. Le travail varie en quantité selon des critères démographiques et en qualité en fonction du capital humain. La quantité de capital dépend des investissements. Les investissements sont source de croissance car ils agissent à la fois sur la demande, à court terme, investir c'est acheter du capital à des entreprises, et sur l'offre, à long terme, ils permettent d'accroître les capacités productives. Le progrès technique est source de croissance économique. Cependant, les facteurs de production ont une productivité marginale décroissante. À mesure qu'on les accumule, la croissance devrait être de moins en moins forte. Or, historiquement, la croissance est continue. La décomposition de la croissance révèle qu'un troisième facteur intervient, la productivité globale des facteurs, PGF, qui est la mesure statistique du progrès technique. Celui-ci correspond à tout ce qui améliore la combinaison productive travail-capital. Le progrès technique permet des gains de productivité qui, quelle que soit leur répartition, génèrent de la croissance. Alors que la croissance extensive repose davantage sur les facteurs de production, la croissance intensive est davantage le résultat de la PGF. Le progrès technique est endogène. Le progrès technique n'est pas une manne tombée du ciel. Il est volontairement produit à travers certains investissements, eux-mêmes générateurs d'externalités positives, qui profitent à toute la société. Mais ces investissements en capital humain, en recherche-développement, en infrastructure, ont un rendement privé faible pour l'entreprise qui investit, alors que leur rendement social, pour toute la société, est très élevé du fait des externalités positives. L'État doit donc encourager ces différents investissements. Par exemple, l'État fournit gratuitement les services scolaires pour faciliter les investissements en capital humain. On parle alors d'une croissance endogène, c'est-à-dire auto-entretenue. Les investissements génèrent du progrès technique et des externalités positives qui permettent de la croissance, elle-même fournissant les moyens d'investir à nouveau. Quel rôle jouent les innovations dans la croissance économique? Les innovations sont à l'origine du progrès technique. Les innovations peuvent prendre différentes formes: nouveaux produits, nouveaux procédés, nouvelle organisation du travail. Du progrès technique apparaît car la première agit sur la demande des consommateurs, alors que les deux autres agissent sur la productivité des entreprises, donc sur l'offre. Qui dit action positive sur l'offre et la demande, dit croissance économique. Les innovations sont le résultat des investissements en recherche-développement, à la fois privés et publics. Une invention ne devient une innovation que si elle est exploitée et commercialisée. Les institutions incitent à investir et à innover. Les entreprises investissent lorsque le contexte est favorable. Un ensemble d'institutions formelles, lois, systèmes juridiques, monnaie, et informelles, réseaux d'entreprises, confiance, culture de l'innovation, sont donc nécessaires pour inciter les acteurs économiques à investir. Parmi ces institutions, les brevets jouent un rôle majeur. Ils procurent à l'innovateur un monopole temporaire de 20 ans, le temps de rentabiliser son innovation. Sans brevet, l'invention serait immédiatement copiée et l'entrepreneur ne pourrait pas rentabiliser son activité de recherche. Personne n'innoverait. Les brevets incitent donc les entrepreneurs à investir et innover. les innovations s'accompagnent d'un processus de destruction créatrice. Les innovations apparaissent par grappes. Une innovation majeure est suivie d'un ensemble d'innovations complémentaires. Les nouvelles innovations créées se font le plus souvent au détriment des anciennes innovations, qui ont tendance à disparaître. Internet s'est substitué au Minitel, tout comme les voitures électriques pourraient remplacer les moteurs à combustion. La destruction créatrice est donc cyclique. La destruction créatrice concerne aussi les secteurs d'activité et les emplois. Les secteurs primaires et secondaires sont en déclin, au profit du secteur tertiaire. De même, l'ubérisation des emplois révèle le développement de petits boulots peu encadrés, au détriment des emplois réglementés. Quels sont les défis de la croissance économique ? Le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus entre catégories sociales. Les innovations procurent à leurs inventeurs des rentes conséquentes et elles favorisent les travailleurs qualifiés, très demandés, qui voient en conséquence leur salaire augmenter, d'où une hausse des inégalités de revenus par le haut, due au progrès technique. De plus, les innovations, pour être produites rapidement et à grande échelle, ont besoin d'une main-d'œuvre bon marché pour exécuter des tâches rapides et simples. Les petits emplois de services mal rémunérés se multiplient également. Cependant, le processus de destruction créatrice facilite l'émergence de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux métiers, de nouveaux marchés, ce qui facilite le renouvellement des fortunes. Les nouveaux acteurs prennent la place des anciens, ce qui réduit les inégalités. Le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus entre territoires. Les entreprises des nouvelles technologies ont intérêt à se regrouper géographiquement afin de bénéficier sur place d'une main-d'œuvre qualifiée, d'un réseau d'entreprises compétentes, d'infrastructures adaptées ou encore d'une culture locale dédiée à l'innovation. La Silicon Valley est l'exemple phare. Les inégalités se creusent alors entre ces pôles urbanisés et modernes et les régions délaissées par les producteurs et les consommateurs. C'est un effet boule de neige. Les entreprises se concentrent où il y a de la demande pour réaliser des économies d'échelle, économiser sur le transport et bénéficier d'externalités positives. Travailleurs et activités commerciales sont alors attirés. La croissance économique se heurte à des limites écologiques. En amont, la croissance est limitée par l'épuisement des ressources non renouvelables, comme le pétrole, et épuisables, comme le bois. La production dépasse la biocapacité de notre planète. En aval, production et consommation génèrent des externalités négatives, c'est-à-dire différentes formes de pollution et le réchauffement climatique. Ces externalités négatives pénalisent la croissance, car elles mobilisent des ressources qui pourraient servir à produire d'autres biens et services. Les innovations peuvent aider à reculer les limites écologiques de la croissance. Les innovations permettent de repousser ces limites écologiques, à l'image de l'exploitation des ressources naturelles renouvelables en amont et du recyclage des déchets en aval. On peut alors croire en un développement durable qui permettrait une croissance économique présente et future. Les partisans de la soutenabilité faible accordent une grande importance au progrès technique. D'une part, celui-ci se substitue aux ressources épuisables et non renouvelables, que l'on peut donc préserver. D'autre part, le progrès technique réduit la pollution via les procédés de production et les objets de consommation. De plus, ce progrès technique est source de croissance. Les partisans d'une soutenabilité forte constatent que, malgré de nombreux progrès techniques, la dégradation de l'environnement persiste, et ils en déduisent qu'il faut ralentir ou abandonner la croissance pour privilégier d'autres modes de vie.